les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Lise Marie Cassard, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
On vous en parlait en début de cette saison lors d'une preview. Rome est vraiment une série événement et aujourd'hui on en reparle en détail avec Sarah et Lizzie.
Et donc c'est l'arrivée du peplum sur la télévision parce que je n'ai pas souvenir, il y en a déjà eu beaucoup. C'est une série télévisée produite par les Américains et les Britanniques comme Frères d'Armes à l'époque, donc par HBO et la BBC. Aux commandes John Milius, William Donald et Bruno Heller qui sont en tout cas pas très connus dans le milieu de ce côté-ci de l'Atlantique. Et pour nous en parler, comme tu l'as dit, c'est Lizzie, une série super acclamée par la critique quand même, plein de Golden Globes, dont celui de meilleure actrice pour Polly Walker.
Dans le rôle de Hatia, la nièce de César, oui, effectivement. C'est un peplum un peu dans la même veine que Gladiator. J'ai quand même reconnu un esprit qu'on voit dans le film, dont je vous parlerai un peu plus tard. La série est un drame historique dépeignant la période de l'histoire entourant la transformation violente de la République romaine en Empire romain. C'est un changement qui est conduit par la lutte de classe entre patriciens et plébéiens, donc c'est-à-dire la noblesse en opposition avec la plèbe, et l'affaiblissement des établissements politiques. C'est l'histoire de Jules César, on le verra à travers les 12 épisodes de cette série. L'histoire commence en 52 avant Jésus-Christ. Après 8 années de guerre, Jules César, qui vient de conquérir la Gaule et la Germanie, prépare son retour à Rome. La situation est très tendue dans la capitale, où le Sénat craint son retour. La Rome d'aujourd'hui a en effet basculé dans la facilité et les plaisirs, oubliant rapidement les valeurs de la République. Ordre et fidélité ont fait place à la corruption et aux excès, et le pouvoir militaire a pris le dessus sur le système politique. Très vite, la rivalité avec Pompée le Grand, autre grand soldat et héros national, tourne à la guerre ouverte. Il faut savoir qu'à l'époque, Pompée, c'est lui qui est un peu le gardien de Rome, pendant que César est parti combattre la Gaule. C'est dans ce contexte que deux soldats de César, Titus Pullo et Lucius Vorenus, vont être envoyés en Gaule pour retrouver l'étendard volé de la Légion, symbole de l'unité des troupes de César. Et c'est comme ça que commence le premier épisode qui s'appelle « Le vol de l'aigle ». Cette série, comme je l'ai dit, nous raconte la véritable histoire de Jules César, de la guerre contre Vercingétorix. D'ailleurs, la série s'ouvre là-dessus, sur Vercingétorix qui s'agenouille aux pieds de César. Donc on est tout de suite bien situé dans le contexte historique. La série se termine par une conspiration de sénateurs qui vont assassiner César dans le Sénat.
J'ai beaucoup aimé Brutus.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs Brutus, le fils adoptif de César, qui va lui asséner le coup fatal.
Il dira la fameuse phrase en latin que j'ai complètement oubliée.
Et oui, tu quoque filimi, que beaucoup de gens ont dû apprendre à leur cours de latin, qui signifie « toi aussi mon fils », qui a été prononcé par César quand Brutus l'a tué. Alors César fut nommé dictateur à vie, déifié, et sa mort marque la fin de la République romaine, qui sous le principat de son successeur Auguste, que l'on rencontre déjà dans la série, qui est Octave en fait dans la série, vainqueur de Marc-Antoine dans la deuxième guerre civile, laisse place à l'Empire romain. Et d'ailleurs ce combat entre Auguste et Marc-Antoine va être développé dans la saison 2, c'est une coproduction exceptionnelle de HBO et de la BBC. C'est un drame intime fait d'amour, de trahison, de maîtres, d'esclaves, des maris et des épouses, comptant la période très particulière de la Rome antique qui a vu la chute d'une république et la création d'un empire. C'était vraiment une période où il y avait beaucoup de choses à raconter au niveau de trahison, mensonges et tout ça, et c'est bien retranscrit dans cette série. C'est une période d'extravagance et de décadence aussi, durant laquelle corruption et excès en tout genre étaient monnaie courante. Ce péplum croise les destins de Titus et de Vorenus, les deux soldats, comme je l'ai dit, à ceux de César, Marc-Antoine ou encore Cléopâtre.
Et Brutus.
Et bien sûr, Brutus qui aura marqué Sarah, comme vous le voyez. Initialement prévu pour seulement une saison de 12 épisodes, avec un budget quand même colossal de 100 millions de dollars pour la saison, soit à titre de comparaison, le même budget qu'un film comme Gladiator, par exemple. Ça, pour la saison, c'est...
Et c'est d'ailleurs ça qui a posé, entre autres, problème à HBO et qui a mis en question l'existence de la seconde saison.
Trop cher. Parce qu'il y a eu une de ces rumeurs incroyables sur le fait, est-ce que la deuxième saison va se faire ou non ? Mais oui, grâce à de très bonnes audiences, 3,8 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et d'exceptionnelles critiques quand même. Elle a vraiment été acclamée par la critique et par le public.
À juste titre.
Oui. Et Bruno Heller, un des créateurs de la série, aurait déclaré dans un entretien qu'il préfère la deuxième saison car elle raconte justement la lutte de puissance entre Octave et Marc-Antoine après l'assassinat de César. C'est tout un programme.
Et peut-être justement parce que cette histoire est un peu moins connue que celle de Jules César et donc plus une découverte pour les téléspectateurs.
Oui, ce sera certainement plus une découverte. Par exemple, ici, je n'étais pas du tout gênée de vous expliquer que la série se termine par l'assassinat de Jules César, vu que les 12 premiers épisodes auraient pu s'appeler César au lieu de Rome, tellement ça couvre vraiment toute la période du déclin de la ville de Rome.
C'est le même principe que le film Titanic, on sait qu'à la fin, il coule. Quoi.
Exactement, voilà. Donc là, il n'y a aucune surprise à ce que j'ai dit. Les 3 premiers épisodes de Rome ont été filmés en Italie par Michael Apted, qui a travaillé pour Le Monde ne suffit pas, le James Bond. Ensuite, se succéderont à la mise en scène les réalisateurs habituels des productions de HBO, Alan Coulter qui a travaillé pour Les Sopranos, Jérémy Podesua pour Carnivale ou Six Feet Under, Alan Poole qui est le producteur exécutif de Six Feet Under, Michael Salomon pour Band of Brothers, Alan Taylor pour Deadwood, Timothy Van Patten pour Sex and the City, de Sopranos, et il y en a encore d'autres. Parmi les scénaristes, outre les initiateurs du concept que tu as cité, Sarah, on retrouvera aussi Alexandre Cunningham de Desperate Housewives, David Frankel de Sex and the City et Adrian Hodge. Donc on voit que c'est vraiment des gens de qualité qui ont travaillé sur cette série.
Le pitoyable scélérat se plie à toutes tes exigences. Le Sénat confirmera ton statut, tu auras ton triomphe, tu seras consul et Pompée se retirera en Hispanie. Encore un peu et il sucera la queue de Posca.
C'est trop généreux. Pas un instant, je n'aurais cru qu'il accepterait ces conditions.
Tu crois que c'est une ruse ?
Non, j'en doute. Lui et ses pauvres troupes sont pris au piège. Il est faible, il le devient chaque jour un peu plus. On peut l'écraser à tout instant. Mais maintenant qu'il consent à la trêve que je lui propose, je passerai pour le plus odieux des tyrans si je l'attaquais. Posca, ici présent, pense que je devrais accepter cette trêve. Faire la paix.
En échange de quoi, au juste ?
La paix est à elle seule une récompense.
Oh, quelle mièvrerie ! Moi, je maintiens que c'est la guerre, alors aucune pitié.
Pompée n'a pas une grande armée, mais il a la légitimité. Le Sénat est pour lui.
Dans Rome, oui, ils sont le Sénat. Mais en dehors, ce ne sont que 300 vieillards à peine.
Tu as raison, Antoine, mais Posca n'a pas tort. Cette reddition est officielle et toutes les provinces vont le savoir. Or, si je ne suis pas un tyran, si je refuse ce rôle, si je cherche la légitimité, pourquoi n'accepterais-je pas des conditions aussi favorables ?
Eh bien, parce qu'il refuse de te rencontrer... en personne.
Oui, excellent. C'est simple. Le commun des mortels se rangerait à une telle décision. Il refuse une confrontation face à face, d'homme à homme. Il refuse de me voir en personne.
Oui, excellent. Alors, trêve refusée. Allons les combattre.
Patience. Il n'a aucune chance. Nous irons quand le moment sera venu.
Alors quand ?
Quand le moment sera venu.
Mais nous aurions dû quitter Rome depuis longtemps. Le fruit est assez mûr pour être cueilli, et nous restons assis là sans rien faire.
Pompée n'a rien d'un fruit mûr, et Jules César n'a rien d'un fermier. Qu'on appelle ma garde.
Je vais un peu vous parler des personnages plus en détail. Ils sont vraiment très nombreux dans cette série. Et au début, on a un peu du mal à situer tout le monde. Ceux qui font partie du clan de Pompée, ceux qui font partie du clan de César.
D'autant que ça bouge.
Oui, c'est ça. Ils sont pas tous d'accord. Il y a des girouettes qui passent de l'un
et
à l'autre.
Et au milieu, on a Brutus.
Là, lui, il n'est jamais sûr de rien
ben
jusqu'à
oui,
la fin.
Hein, milieu,
donc, oui,
donc,
c'est ça. Et alors, il y en a certains qui voyagent avec lui. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre tout au début, de voir qui est qui par rapport à qui, mais... très vite, on situe tout le monde. Je parlais tout à l'heure de plusieurs clans. Il y a d'abord celui de Jules César. César est interprété par Karan Hines. Il est excellent, il a une vraie présence et il est tout à fait crédible.
Pour ceux qui regardent en VO, c'est intéressant parce qu'on se rend très vite compte que César, Brutus et Octave ont un accent anglais, un accent britannique très prononcé. Et donc, ça donne un côté très... aristocratique britannique à cette classe d'aristocrates, justement,
oui, tout à fait.
Par rapport à la plèbe qui, eux, sont américains.
Moi, je voulais quand même remarquer une petite chose. Est-ce que vous, quand vous l'avez regardé en VO, ça vous a pas choqué que les Romains parlaient en anglais ?
Si, ben oui, effectivement.
Je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises, mais je me disais, mais c'est bizarre, ils parlent en anglais.
Je me suis dit, quitte à ce que ce soit en VO, pourquoi pas en italien, après tout.
Mais c'est comme
de
nous,
l'époque.
On regarde des péplums en français, finalement.
Oui, quelque
c'est
part,
con.
Mais je me suis, c'est pour dire la qualité de la série. Elle était tellement bien foutue que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils parlent en anglais.
Oui, ce qui
les
choque
Romains.
À la limite, c'est qu'on parle en anglais.
Mais bon, ils jouent très bien.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on préfère nettement écouter les Anglais d'Angleterre que les Américains.
Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cet acteur parvient à jouer César en renouvelant César, parce que ça doit être un rôle casse-gueule pour un acteur. César, on voit tous, on a tous des stéréotypes. Et lui parvient, en fait, à transcender complètement ça. Il est absolument magnifique.
Oui, quand on le voit, on se demande qui d'autre que lui pourrait jouer César dans une autre production.
Du côté des soldats, il y a d'abord Marc-Antoine, le bras droit de César, incarné par James Purfoy, mais également Lucius Vorenus, un centurion courageux, loyal et fidèle, joué par Kevin McKidd, qui est également à l'affiche de Kingdom of Heaven. L'autre soldat que l'on suit est Titus Pullo, râleur, ivrogne, jouisseur, mais ami au grand cœur, il s'attire toujours toutes sortes d'ennuis. Il est interprété par Ray Stevenson, qui a joué dans un autre péplum, le roi Arthur, dans lequel il incarne Dagonet. Ces deux-là forment vraiment un duo de choc, ils sont vraiment savoureux, je dirais. Ils ont une certaine complicité qui se développe petit à petit dans la série, et c'est vraiment très agréable de les voir jouer ensemble. Ils sont vraiment très complémentaires.
Ouais, c'est un peu Laurel et Hardy, Wackel et Jekyll. Quoi.
Oui, vraiment. Très opposés, mais en même temps, ça devient des amis pour toujours. Quoi.
Ils se disputent, mais c'est toujours très drôle lors de leurs disputes.
Du côté de la noblesse, il y a tout d'abord Attia, la nièce de Jules César, incarnée par la parfaite Polly Walker, qui tient son rôle à merveille. Elle a d'ailleurs décroché un Golden Globes pour son interprétation. Elle est tout à fait machiavélique. Elle dit des mensonges à tout le monde. Très manipulatrice aussi. Il faut toujours qu'elle tourne tout à son avantage pour ne pas se retrouver dans la misère. Elle est un des nombreux personnages qui un jour tient pour César, l'autre pour Pompée, et s'assure toujours ses arrières pour que rien ne lui arrive jamais. Elle est exceptionnelle.
Quitte à broyer ses enfants au passage d'ailleurs.
Oui, elle n'hésite pas à les sacrifier. D'abord Octavia et le jeune mais déjà très intelligent Octave, qui est joué par Max Pirkis, qui a joué dans Master and Commander. Il y a également Pompée Magnus ou encore Servilia, maîtresse de César, mais on peut déjà dire ex-maîtresse parce que après quelques épisodes, leur relation va se terminer. C'est également la mère de Brutus. Brutus est un enfant illégitime que César a eu avec elle. Il y a aussi une très bonne actrice qui est Indira Varma, une actrice indienne qui joue Niobe, l'épouse infidèle de Lucius Vorenus, qui joue extrêmement bien. La plupart de ces personnages ont réellement existé. S'il n'est pas nécessaire de rappeler ici qui était Jules César, Pompée ou Marc-Antoine ou encore Octave.
Ou Brutus.
Ou Brutus, oui, pour ceux qui ont vraiment suivi à la lettre leur cours de latin. On pointe quand même Cato et Cicéron qu'on suit et qui font partie du clan de Pompée.
D'ailleurs, moi j'adorais le personnage de Cicéron parce qu'on le voit toujours comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'orateur et tout. Et là, on voit aussi que Cicéron est un homme politique capable de manipulation bête.
Oui,
ça, je trouve ça génial.
C'est bassement politique, malheureusement, et qui a pu trahir et qui peut être un vrai faux cul, en fait, hein, un vrai homme politique faux cul. Caton, lui, était en fait mieux connu comme Caton le Jeune, puisque son père était l'un des défenseurs de la frugalité et des anciennes vertus romaines. C'était des gens très très pingres, qui peinaient au champ avec leurs esclaves, partageaient leur ordinaire, et donc. C'est pour ça qu'on voit par exemple Caton fuir Rome aux côtés de Pompée, pieds nus, en ne montant pas à cheval, etc. C'était vraiment une catégorie très particulière. Ami de Cicéron, sans pour autant lui ressembler. Cicéron, qui était ce fameux orateur que tout le monde connaît, qui au Sénat était le chef des modérés, opposé à la politique impérialiste de César. Parmi les autres protagonistes, on en trouvera de moins connus du grand public, mais tout aussi historiques comme Attia, la nièce de César, qui est effectivement la mère d'Octave et d'Octavia. Comploteuse, elle fait assassiner par son amant l'insignifiant mari de sa fille afin de lui trouver un meilleur parti. Donc tout ça est réel et tout ça on le voit dans la série. Il y a aussi Servilia, comme je l'ai dit, une des maîtresses de César, sœur de Caton d'Utique, donc la sœur de Caton, épouse de Junius Brutus et mère de Brutus que l'on voit dans la série. Celui-ci descendait du premier consul de Rome, qui était devenu une république après qu'il eut chassé le roi Tarquin le Superbe. Comme ça, vous savez tout et vous avez un vrai petit cours de latin. Sa filiation hanta Brutus qu'on suit dans la série, au point de se joindre aux assassins de César, qui en était certainement le père naturel. Quant aux deux principaux protagonistes de la série, Lucius Veronius et Titus Pullo, ils n'ont pas tout à fait été inventés puisque César les mentionne dans son récit de la guerre des Gaules comme deux centurions rivaux en bravoure et qui se distinguèrent spécialement sous des ordres de son légat Quintus Cicéron, le frère de l'orateur. Rome n'est pas une série qui édulcore ou simplifie les faits. Vous le verrez très rapidement, la série se veut réaliste et très fidèle à l'histoire. Même si la vie des personnages principaux, Lucius Vorenus et Titus Pullo, sont fictifs, ils sont véritablement au cœur des événements et permettent de lier les destins des différents hommes qui ont fait l'histoire. Ils nous permettent aussi et surtout de suivre le quotidien des Romains, qui est véritablement passionnant à suivre, en fait.
À mon avis, les historiens et les latinistes ne doivent pas être tout à fait d'accord. Il y a effectivement des anachronismes, mais c'est vrai que pour une personne normale comme nous, je pense qu'effectivement, c'est une des premières fois où on se rend vraiment compte de ce que ça a dû ou pu être.
Oui, la vie à Rome à l'époque, et c'est certain, il doit y avoir des erreurs, mais je trouve que c'est quand même très bien représenté. Bien qu'évoquant parfaitement les événements politiques survenus du temps de la bataille, c'est jubilatoire lorsque la série met en scène le quotidien des Romains sans pudeur et parfois avec vraiment beaucoup de cruauté. On nous sert une trépanation en direct aux premières loges, on marque les esclaves au fer, donc il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre la série. Le langage aussi peut être très cru, en tout cas toujours très direct et franc. Sauf dans la noblesse, entre femmes, par exemple entre Attia et Servilia, on se dit des horreurs sur le ton de la conversation, sans que personne ne s'en rende compte.
Sauf celle à qui c'est adressé.
Oui, bien sûr, et elle le comprenait très très bien. Il y a un rapport fort à la notion de l'honneur et de rapport à sa conscience. Ai-je suivi les valeurs dans lesquelles je crois ? Et on se rend compte qu'en fait, peu de gens suivent vraiment leurs valeurs jusqu'au bout. Ça se voit très clairement avec Brutus.
Hein, parlons-en de Brutus.
Tout au long de la série, où lui ne sait vraiment pas... à qui il doit faire confiance, parce que il essaye d'être loyal envers César, en qui c'est un père pour lui, mais à un moment, il ne peut plus le suivre et il doit se résigner. Enfin, c'est assez compliqué, il est torturé, il est vraiment torturé. Et un autre personnage qui a ces mêmes cas de conscience, c'est Vorenus. Et souvent, il y a des comparaisons qui se font entre deux et ça fait un peu les cas de conscience dans la côté de la plèbe et côté noblesse. D'ailleurs, il y a énormément d'oppositions ou de parallèles qui sont faits. En voilà quelques exemples. Il y a un parallèle qui est fait lors d'une réception chez les nobles, chez Attia, et une réception dans la plèbe, dans la famille de Vorenus. Et donc il y a à chaque fois une alternance de plans d'une réception à l'autre. On voit aussi ça dans l'évolution constante entre le camp de César et de Pompée. Donc on voit ce qui se passe d'un côté puis de l'autre alternativement. Par exemple, lors de la préparation de César à la bataille et la préparation de Pompée et de son clan à combattre. Il y a aussi, par exemple, des comparaisons un peu plus inattendues, comme César et Cléopâtre au lit, et Servilia et Octavia. Oui, oui, vous avez bien entendu, Octavia et non pas Octave. À savoir que César et Servilia sont d'anciens amants. Et ça m'amène à un autre thème fort abordé dans cette série, c'est le sexe. Les scènes de sexe et de nu sont pas vraiment courantes hein, dans les séries, ça on peut le dire. Par contre, ici, on peut dire qu'on est servi. Le nombre de fois où on voit des hommes et des femmes nus est très très fréquent. Les gens au lit, il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça. On en voit même plus que dans certains films dits érotiques. Et au niveau violence et au niveau sexe, il faut quand même être au courant de tout ça en abordant la série, parce que on peut être choqué à un moment, en tout cas au niveau de la violence, parce qu'il y en a vraiment énormément.
Faut avoir le cœur bien accroché.
C'est vrai que c'est une série, on a l'impression qu'HBO va crescendo et qu'on passe de choses de plus en plus montrées, notamment au niveau du sexe, ça se sent très fort l'évolution qu'il peut y avoir entre des Doudes et Rome qui ont été faits à quelques mois d'intervalle, et on sent réellement qu'il y a une progression que HBO revendique d'ailleurs.
Et l'ambiance générale de la série était vraiment une ambiance d'arrangement politique, de mariage de raison, tromperie, trahison, complot, corruption. Ça revient continuellement, les mensonges sont monnaie courante, et c'est toute une ambiance très particulière à cette série, je dirais, de calcul constant. Toute décision prise dans la série est purement politique.
Alors, te revoilà.
Tu as retrouvé tes enfants, hein ?
Oui.
Il paraît qu'ils étaient esclaves.
C'est vrai ? Je suis content pour toi. Rien n'est plus important que la famille.
Tu as raison, c'est pour ça qu'on va parler. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans la peur, je veux qu'on fasse la paix.
La paix ?
Le nouveau consul l'ordonne.
Ah, tu lui as parlé, peut-être.
Lui et Pullo sont de vieux amis.
Ah, ça veut dire quoi ?
Ça va, mon frère. Kota n'a pas voulu t'offenser, hein, Kota? Tous ces bains de sang, c'est mauvais pour les affaires et mauvais pour la ville.
Tu es le premier à avoir fait couler le sang.
Je ne le nie pas. J'étais en colère, mais je me suis calmé. J'ai réfléchi et je crois qu'on a tous suffisamment souffert. Mais Mio, tu as perdu combien d'hommes?
Quelques-uns.
Et toi, Kota, combien?
Un peu moins que toi.
Tous ces hommes, ces femmes et ces enfants partis, et pourquoi? Pour donner plus de force à nos ennemis, ça n'aura servi qu'à ça. En rétablissant la paix, tous les trois. À Cerbo et les bas quartiers, nous baiserons les pieds comme ils le faisaient autrefois.
Si on accepte, qu'est-ce que tu suggères?
Vos deux collèges gardent les Argosiens. Vous pouvez vous les partager si vous voulez. On garde les Ostiens.
Les Ostiens veulent venir avec nous.
Quoi qu'il en soit, ils restent avec les Aventins. Mais vous pouvez avoir un bénéfice, disons 5%.
Chacun.
Si ça nous garantit la paix.
La paix, alors.
Ils vont croire qu'on s'est radouci.
Tant mieux. On a besoin de temps pour refaire nos forces. Pendant qu'ils se partageront le butin des Argosiens, on recrutera des hommes. On restaurera l'ordre.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième saison?
Comme toujours, je suis définitivement fan. J'ai vraiment aimé, ça se tient du début à la fin. Les deux saisons se tiennent sans problème. Vraiment, il n'y a aucune déception, en tout cas pour ma part. On reprend la série à la mort de César. Tu es à coup de couteau au milieu du Sénat.
Par Brutus.
Ben, par tout le monde, mais effectivement, c'est Brutus qui lui donne le coup fatal. Très théâtral. On peut donc dire que c'est le clan des Junii, dirigé par Servilia, Brutus et les autres sénateurs, qui gagnent le combat entre les deux familles, donc la leur et les Julii, qui sont donc en position de force. Pour rappel, les Julii, c'est composé de Atia, Antoine, Octave et Octavia.
C'est-à-dire tous les pas sympas.
Tous les pas sympas. Atia, qui était donc la nièce de César. Ils se réunissent pour écouter le testament de Jules César. Conclusion, il lègue son argent et, le plus important, son nom, le nom de César, à son neveu Octave, le tout jeune Octave, qui déjà a des idées un peu différentes de César et aussi d'Antoine, l'amant de sa mère. Et en parallèle, à la fin de la première saison, la femme de Vorenus se tue et Poulot part avec sa femme à la campagne. Mais très vite, on voit que Poulot revient en ville à l'annonce de la mort de César et retrouve son ami qui enterre sa femme qui s'est suicidée. Donc on voit qu'on va de nouveau suivre en parallèle la vie dans la plèbe et ce qui se passe chez les dirigeants. Vraiment, Poulot et Vorenus vont suivre l'évolution d'Octave et Antoine jusqu'au bout. Et ça, c'est assez intéressant de suivre justement cette plèbe si proche des dirigeants, presque amis, presque conseillers. Poulot et Octave ont vraiment une très forte relation et c'est assez intéressant. L'ambiance générale de la série est une ambiance de calcul, d'arrangement politique, de mariage, de raison, de tromperie, trahison, complot, corruption et manipulation politique. Mais c'est encore plus vrai, je trouve, dans cette deuxième saison où on n'a plus tellement cette ambiance de guerre qu'il y avait dans la première saison. Ici, il y a vraiment un conflit assez faible en deuxième partie, je vais dire, de saison, vu que on va assister à la deuxième guerre civile où Octave et Antoine combattent les anciens partisans de César, donc les sénateurs. Et ensuite, il y aura un troisième conflit qui opposera Octave et Antoine entre eux. Et donc, on voit beaucoup moins de scènes de combat au champ de bataille, mais ce sera vraiment beaucoup plus des corruptions, encore plus de manipulations politiques et de tromperies entre eux et entre les familles. Et il y aura aussi un mariage de raison assez étonnant entre Antoine et Octavia, la sœur de Octave, pour montrer l'union familiale aux yeux du peuple. Et je dirais qu'Octave a beaucoup plus le souci de César d'apparence. Il faut vraiment que l'apparence soit très très importante aux yeux du peuple.
Une autre opposition, c'est qu'avant, il y avait l'opposition entre Servilia et Attia. Elle se transforme ici plutôt entre Attia et Cléopâtre, même si Servilia est encore présente en partie dans la saison.
Le mariage, le moment du mariage de Marc-Antoine avec la fille de son amant, vous avez suivi, est un moment absolument dramatique au sens théâtral du terme. C'est absolument hallucinant. Et c'est pas le seul moment, je trouve, que cette série parvient à concentrer dans des moments, dans des scènes, des trucs qui sont absolument faramineux et à nous y amener petit à petit, parce qu'effectivement depuis deux saisons elle nous prépare à certaines oppositions de personnages et certains liens de personnages, et tout se concentre parfois sur deux minutes de série. C'est absolument hallucinant, je trouve.
Moi, ce que je trouve assez particulier dans cette deuxième saison, c'est le retournement complet de personnalité de Lucius Vorenus, qui au départ était un personnage très droit, très militaire, très mon chef, et qui là devient finalement, quand il réfléchit bien, il devient un traître quelque part.
Oui et non, c'est assez difficile.
Il a clairement changé de bord. C'est plus du tout la même personne depuis la mort de sa femme. Il est complètement différent. C'est un personnage totalement différent de celui qu'on a connu dans la première saison.
Oui. Poulot aussi, en fait. Il y a un peu une inversion des deux rôles, parce que qui devient le plus droit des deux, c'est Poulot.
À la différence peut-être que Poulot, on sentait déjà dans la première saison que cette personnalité était peut-être sous-jacente.
Oui, on espérait qu'il y avait du bon en lui et de la droiture.
Moi, je trouve finalement que le seul bémol par rapport à cette série, et donc à la deuxième saison, c'est le changement d'acteur pour le rôle d'Octave.
Tout à fait.
Ça, je trouve dommage que... Donc, Octave est envoyé à la campagne pour devenir plus fort par sa mère, et revient effectivement quelques mois après, et en fait, sans de vraies raisons finalement, parce qu'on aurait pu garder le même acteur, on n'est jamais quelques mois plus tard, ils ont pris un acteur qui faisait plus vieux, entre guillemets.
Et c'est, à mon avis, plus une question physique, de stature, pour faire un peu plus dominant, et encore. Mais c'est vrai qu'on y a perdu au change, parce que le premier acteur qui jouait Octave était vraiment dans le personnage et collait parfaitement au personnage. Il n'y aura pas de troisième saison de Rome, mais c'est tellement bien que, ben voilà, elle se tient tout à fait comme ça, et on est très content que ça s'arrête ainsi.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.